I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Jour premier.
Existe-t-il une potion magique, une recette miracle pour que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre? Non, bien sûr. N'importe quoi. Pourtant, une expérience scientifique menée il y a une trentaine d'années par Arthur Aaron, chercheur en psychologie, tente de démontrer le contraire. Il élabore un questionnaire, 36 questions soumises à deux inconnus. Assis face à face, ils répondent chacun leur tour, puis échangent 4 minutes de silence, les yeux dans les yeux. À l'époque, plusieurs volontaires tombent amoureux. Certains se marient. Mais contrairement aux idées reçues, cette expérience n'a pas vocation à faire naître l'amour comme par magie, mais à provoquer de façon artificielle et temporaire une proximité, une intimité entre deux êtres. Pour le reste, rassurez-vous, l'amour est un oiseau rebelle. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine La maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, la rencontre hasardeuse de deux enfants de Bohème et les recherches mathématiques qui donnent au cœur des raisons qu'il ignorait.
J'ai un petit dicton qui est très drôle où je me dis, je suis pas un Kennedy, je me laisse pas abattre. Et je suis quelqu'un de têtu, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Un jour, je me suis dit, j'ai droit au bonheur comme tout le monde et s'il faut aller le chercher, il faut aller le chercher, quoi. Le début de ma vie, il commence comme tous les débuts de vie, quoi. Je nais et je me retrouve directement à l'orphelinat. Alors ça, c'est pas comme tous les débuts de vie, bien sûr. Mais donc jusqu'à l'âge de 8 ans, je suis dans un orphelinat, dans un château en plein milieu de forêt, dans le Berry, au milieu des sœurs et puis 300 gamins qui sont dans le même cas que moi. À l'âge de 8 ans, moi je me suis retrouvé dans une famille de gens du voyage qui n'étaient pas très 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 sympas. Donc j'ai une enfance un petit peu dans l'ultra-violence, où j'ai bien subi. Et voilà, en gros, jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu comme ça. Et après mes 18 ans, j'ai fait une bêtise que je ne dirais pas, mais je vais rester discret un peu quand même là-dessus. Rien de grave non plus, mais ça m'a coûté de m'engager dans la Légion. Et du coup, j'ai fait 3 ans dans la Légion. Et après, j'ai quitté la Légion et je me suis mis en couple avec une femme que j'ai rencontrée. Alors, drôle d'histoire aussi, hein, parce que on s'aimait, mais on se supportait pas. Donc, ça a été très, très, très compliqué comme histoire. Donc il y a un enfant qui est né de notre union et donc il a fallu que je reparte après parce que voilà, l'histoire était pas belle du tout. Et là j'ai commencé à me dire que l'humain était très compliqué pour moi, que la société que je vivais m'allait pas du tout, donc j'ai pris la décision de partir en voyage. Ça commence à Toulouse, j'avais équipé un vélo avec une remorque et déchiré mes papiers, déchiré l'argent que j'avais. Enfin, j'ai voulu vraiment vivre uniquement de vie dans la nature. Je me suis retrouvé dans les Pyrénées en quittant Toulouse. Et par la suite, j'ai rencontré un cheval dans lequel je suis tombé très amoureux et réciproquement. Bon, c'est un cheval qui n'était pas facile. Et son propriétaire m'avait dit de surtout jamais l'approcher parce que ce cheval-là, il a aucun contact avec l'humain. Il avait même déjà chargé un homme qui l'a tué comme ça. Sauf que, quand c'est hors de question pour moi, ça marche pas très bien. Donc j'ai travaillé pour ce monsieur en échange des chevaux aussi. Alors c'est en pleine montagne, hein, presque 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées, et le gars fabriquait un voilier là-haut. Donc j'ai travaillé sur un voilier en pleine montagne en échange de deux chevaux sauvages. Par la suite, j'ai commencé à prendre la route avec eux. Ça a duré pendant 13 ans, l'histoire. Hein, et donc, on marchait dans la nature, en haut de la montagne. Et on s'arrêtait, ils mangeaient, ils buvaient, on repartait, on dormait là où on se trouvait. Aucun contact pendant 3 ans avec l'être humain. Et je me nourrissais de cueillettes, de chasse, de pêche. Mais vraiment une vie dans la nature, complètement. Il m'a fallu vraiment... pas mal de temps pour revenir et refaire confiance à l'être humain. Il faut savoir qu'à pied à travers la montagne, ça prend du temps. Hein. Donc ouais, j'ai fait une grosse partie de l'Espagne, une grosse partie du Portugal, un petit peu la Suisse et beaucoup la France. J'ai eu des rencontres amoureuses, j'ai eu des rencontres avec des femmes sur le voyage, parce qu'il y a aussi des femmes qui voyagent dans ces conditions-là. Et c'est des rencontres d'une journée ou deux, mais on est tous chacun dans notre voyage, donc c'est des histoires qui n'ont pas de suite, en fait, quoi. Donc ça va, ça vient, c'est rare aussi, hein, c'est pas, y a pas eu des conquêtes tous les jours, hein, non plus, hein. Mais celle qu'il y a eu, c'était vraiment éphémère, en fait, quoi. J'étais pas prêt encore à vivre des expériences comme celle-là, quoi.
L'humain est compliqué. Dawa a une vie assez lourde et bien complexe.
Laurent Pujot-Monjouet.
Et ça me parle énormément.
Docteur en mathématiques.
Je suis mathématicien, appliqué à la biologie et à la médecine au départ, mais je m'intéresse depuis quelques années aux relations amoureuses et je modélise les paramètres qui permettraient, avec des équations, d'avoir une relation amoureuse la plus sereine possible, la plus longue possible. Les modèles mathématiques des relations amoureuses sont, on pourrait penser, complètement irréels. On se dit pourquoi les maths viennent intervenir dans quelque chose de très personnel, de très humain, quelque chose qui peut changer. Et justement, mon idée, c'était vraiment de rationaliser ça avec une approche très simple et très peu de paramètres. Et grâce à ces paramètres, pouvoir identifier ce qui permet de savoir si la relation va durer ou pas. J'ai identifié 3 paramètres essentiels. Le premier, c'est l'usure. L'habituation est un terme de psychologie qui est identifié par le fait que, par exemple, si on porte un parfum, la première fois, on sent le parfum sur soi, et puis à un moment donné, on ne le sent plus. Le deuxième paramètre, c'est l'attractivité. Au départ, on essaie de miser sur le physique. Puis au bout de quelques temps, l'autre nous connaît par cœur, et c'est plus le physique qui prend un part au charme, on va dire. Le troisième paramètre, c'est le dernier, c'est la réaction à l'amour de l'autre, qui peut être... très linéaire. Plus on m'aime, plus j'aime. Plus on me déteste, plus je déteste. Donc ça monte comme une droite, en gros. Et quelquefois, ça peut être complètement biscornu, c'est-à-dire que plus on s'approche de moi, plus je vais m'éloigner, plus parce que j'ai peur, parce que je sors d'une relation douloureuse, parce que justement, un peu comme Dawa, j'ai un vécu qui est assez difficile et un rapport avec l'être humain bien compliqué. Les différentes relations qu'il a eues pendant son voyage, qui sont en fait des rencontres ponctuelles, c'est assez intéressant dans le sens où il va identifier par lui-même, presque de façon intuitive, sa relation, c'est-à-dire qu'il va la commencer directement en dessous de la barre. La plupart de nos relations, on la commence au-dessus, parce qu'on est quand même très amoureux.
Il m'a fallu 13 ans pour me dire « Ok, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. » Et j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Genre, un matin, je me suis levé, je suis sorti de mon tipi, et j'ai dit « Ok, j'arrête. » Alors, j'étais dans le Lot-et-Garonne, Il y avait un monsieur qui habitait dans une maison là où j'avais planté mon tipi. Je suis allé le voir, je lui ai dit « Est-ce que je peux utiliser ta salle de bain ?» Alors je me suis rasé la barbe qui me descendait jusqu'en bas du ventre, je me suis rasé le dessus du crâne et puis je me suis dit « Bon, c'est bon, allez, on arrête tout ». Alors il m'a donné 20 euros et puis il m'a dit « Bah tu vois, tu prends les 20 euros et va manger au restaurant ». Et là je suis allé effectivement dans ce petit village et je me suis installé au restaurant, quoi. Alors je rentre dans le resto et là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes d'ailleurs, parce que c'est l'année de la canicule, donc il fait vraiment très très chaud. Et je m'installe à une table gentiment là, et avec une vue qui est magnifique parce que c'est un petit village typiquement du Lot-et-Garonne. Puis ben, je suis bien en fait, je suis bien parce que je prends une vraie décision. Je me pose à une table et puis là il y a des touristes à côté de moi et je vois passer une dame là avec une casquette, avec un panneau solaire sur la tête et puis une petite hélice qui traverse la visière. Je la regarde passer et puis bon, je suis un peu surpris, voilà, la technologie bien sûr, hein, elle m'a échappé un petit peu. Donc là je me dis, oula, là il y a des choses qui m'ont échappé. Et donc du coup j'en rigole avec la table d'à côté et du coup on a commencé à rentrer en conversation avec ces vacanciers. Ça me fait marrer et puis j'ai envie de parler avec eux, je les trouve sympathiques, donc ça commence comme ça la conversation. Comme je rentre tout de suite en contact avec des gens, du coup, je pense pas à ce que j'ai fait, en fait. J'ai eu quand même une sensation bizarre de m'être rasé complètement parce que ça avait changé complètement mon visage. Mais c'est vite passé, en fait. J'oublie même d'essayer de savoir ce que je vais faire après, quoi. Ce qui était important, là, c'était ce contact-là qui est passé au-dessus de tout, en fait. Donc il y a un grand rouquin avec sa femme qui est très belle, les cheveux longs, ondulés, et puis leurs deux enfants, deux petits blondinets, quoi. Et puis je vois une autre femme toute seule avec ses deux enfants, bah, qui me plaisait bien en fait, hein, visuellement, comme ça, au premier regard, je trouvais qu'elle m'intéressait, elle me plaisait, quoi. Elle a les cheveux très courts, un peu grisonnants, et puis tenue d'été, c'est l'année de la canicule, hein, donc relativement dévêtue, on va dire. Très bronzé surtout, très très bronzé, c'est ce qui a attiré mon regard en premier d'ailleurs. Elle est plus petite que moi, elle est fine, et puis je l'ai trouvée très souriante surtout, donc ça facilite le contact, quoi. On sent que c'est une femme de caractère, donc elle est marquée par son caractère aussi, mais très 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 agréable à regarder, quoi. J'ai un peu le coup de foudre là.
On voit que Dawa, de façon très instinctive, va se mettre dans une position où il est prêt de nouveau à rencontrer quelqu'un et il va changer un des paramètres pour changer ses équilibres. Et ce tout premier paramètre, c'est l'attractivité, son potentiel d'attraction. Dawa décrit le coup de foudre qu'il a eu pour Marie et c'est quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui vient vraiment de lui. Et c'est un des rares phénomènes pour lesquels j'ai décidé de ne pas m'intéresser de façon mathématique. Je ne fais pas des probabilités, je ne fais pas des statistiques. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas, c'est au bout de la troisième personne que vous rencontrez que vous allez être sûr que vous allez vivre une relation. Chaque personne est tellement différente et chaque personne ressent tellement différemment, soit un coup de foudre, soit quelque chose, que là, je laisse cette magie entre guillemets entre les mains des individus.
Je ne sais pas pourquoi, il y a eu comme un petit pincement au cœur là, qui a fait qu'il fallait que je rentre en contact avec elle. Donc j'en ai profité du panneau solaire sur la casquette pour pouvoir rentrer en contact avec eux, quoi. À un moment, je décide de faire une partie de baby-foot avec les enfants. Voilà, stratégie un petit peu, sûrement, je ne sais pas, c'était inconscient. Mais bon, voilà, j'ai commencé à jouer avec les enfants. Et puis bon, ils ont été servis en même temps que moi. Donc on a fini par rapprocher les tables. Elle m'a un peu parlé d'elle, mais sans plus, quoi. Et puis j'ai fini par les inviter à venir faire une grillade au tipi. C'est surtout le lendemain qu'on a commencé à s'en dire un peu plus, parce que là, ils étaient arrivés au tipi, donc là, fallait un petit peu expliquer un peu plus dans le détail le pourquoi du comment de ma façon de vivre, quoi. Et puis, je sais pas, on n'arrêtait pas de se regarder, de se sourire. Enfin, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. C'était, je crois, plus fort que nous, de toute façon. Et je lui plaisais beaucoup, apparemment. Apparemment, je lui plaisais beaucoup. Et ça se voyait, de toute façon. J'ai comme un espoir qui est une prolongation, on va dire ça comme ça. Mais j'y crois pas du tout, parce que je sais d'où je viens. Je suis toujours sous mon tipi. Là, je sais que je suis avec une personne qui est citadine, qui a aussi sa vie. Je sais pas si elle est avec quelqu'un ou pas. Alors, j'ai l'espoir qu'on se revoie, qu'on garde contact, et puis voir plus il y a affinité, comme on dit, mais bon, sans y croire de trop quand même, quoi. Ils sont prêts à repartir et remonter sur la Bretagne. Donc elle me donne son numéro de téléphone en me disant que je pouvais venir en Bretagne si j'avais envie de passer quelques jours là-bas. Et je me débrouille pour trouver un téléphone, quoi. Là, elle commence moi à remplir mon cœur. Et là, je me dis, ah, ok, c'est le lendemain où je me rase, où je décide d'arrêter. Et là, je fais une rencontre comme ça. Donc, donc on s'appelle. Et moi, je marche avec les chevaux sans savoir trop où aller, mais plus dans le même état d'esprit que j'avais. Je marche en pensant à elle. Et puis voilà, c'est un autre voyage qui commence, en fait. Un jour, j'ai fini par la rejoindre en Bretagne pour aller passer un fameux week-end, on va dire. Elle est venue me chercher à la gare, donc ma barbe avait repoussé. Et elle a été très surprise de me voir. Et c'est les enfants qui lui ont dit « c'est d'avoir hein. ». J'ai refait le papier peint de la chambre, les gamins. Alors j'ai failli ôter un peu, parce que j'avais jamais fait ça, puis ça me saoulait un peu de faire ça, mais bon, voilà, j'avais envie de gagner des points, on va dire. Et j'ai gagné des points. C'est le fameux week-end où, on a conclu notre histoire, quoi. Hein, et puis on a dormi ensemble, et puis l'histoire était partie, voilà. Je pense que mon parcours de voyageur lui a plu aussi, quoi. Elle m'a trouvé atypique, et je pense qu'elle, qui sortait d'une histoire un peu compliquée, ça l'a remis un peu sur un autre petit nuage qui était différent, quoi. Quand je suis arrivé en Bretagne, elle habitait au 5e étage dans Rennes et fonctionnaire pour la mairie de Rennes. Donc voilà, un petit peu l'opposé de tout ce que j'avais vécu, quoi. Donc pour moi, très compliqué d'aller vivre avec un cheval au 5e étage, avec une fonctionnaire, deux enfants, il y a une méfiance, quoi. Donc pour moi, il n'était pas question de se mettre ensemble tout de suite. Il fallait vraiment prendre mon temps pour qu'on se découvre vraiment. Elle aussi, d'ailleurs, les histoires d'amour, j'en avais pas vécu beaucoup. Elles ont dégénéré à chaque fois, donc à chaque fois il n'y en a pas eu des masses non plus, hein, mais ça n'a jamais été beau, quoi. Donc bien sûr il y a une méfiance, quoi. Ma barbe avait repoussé, j'avais remis le turban sur la tête, donc elle a reparti sur une nouvelle vie aussi. Le papa de ses enfants n'était pas du tout le même homme que moi, quoi. Donc fallait que tous les deux on apprenne vraiment à se découvrir. Et puis prendre une décision beaucoup plus tard de vraiment traverser un bout de chemin ensemble, quoi.
On retrouve ici les doutes de Dawa qui reviennent et son passé qui le rattrape et qui vont influer justement sur un des trois paramètres, c'est-à-dire la réaction. Marie a l'air de vraiment être attirée par lui, de vraiment l'aimer, et il dit je suis prudent, je vais faire attention. Donc sa courbe monte. On va dire, mais peut-être pas aussi rapidement qu'une droite qu'on pourrait imaginer. Elle va monter vraiment tranquillement, mais il essaye de maîtriser quelque chose. La deuxième chose, c'est le paramètre de l'attractivité. Ce qu'il raconte, c'est que justement, quand il décide de la retrouver, il décide de changer ce paramètre d'attractivité, qui est en fait une combinaison, ce qu'on appelle en mathématiques une combinaison linéaire de plein de paramètres, dont le physique fait partie. Mais encore une fois, il y a plein d'autres aspects qui sont intéressants, comme la complicité, le charme, le fait de rire ensemble, de partager des choses. Ce qui va, pour lui, être le plus important dans ce paramètre d'attractivité, c'est le fait d'être vrai. Et donc, le physique ne fait pas partie de ça pour lui. Donc, les données du paramètre d'attractivité ont complètement changé entre les vacances qu'il a passées et le moment où il a rejoint.
Alors, quand j'arrivais en Bretagne, j'avais fait un petit flyer de quelques lignes en expliquant qui j'étais, ce que j'avais fait dans la vie, mon voyage un petit peu, et ce que j'avais envie de faire, et du coup, expliquer que j'avais besoin d'un terrain pour me poser avec mon cheval et mon tipi. Et j'ai distribué ça sur le marché des Lys à Rennes, jusqu'à temps qu'il y en a un qui m'a dit « écoute, moi j'ai un terrain si tu veux ». Un voisin, là, il y avait un petit hameau pas loin du terrain, qui est venu nous voir et qui m'a dit « Écoutez, allez dans la forêt, là-bas, vous allez voir, il y a deux chalutiers de pêche en plein milieu de la forêt. » Donc on a été voir ça, effectivement, il y a bien deux chalutiers de pêche en pleine forêt, quoi. Un peu hallucinant comme image. Mais surtout, on a aperçu qu'il y avait une maison en construction qui avait été abandonnée, avec un tas de terre énorme à côté. Et je suis allé gratter un peu la terre, et là, j'ai commencé à tomber sur des petites tesselles de mosaïque, hein, en deux sur deux. Et là, j'ai gratté. Donc on a cherché le propriétaire du terrain qui nous expliquait que, bah, que l'État avait racheté la maison avant qu'elle soit finie pour faire passer l'autoroute à côté. Et du coup, bah, il a tout laissé en plan et il m'a dit bah, « Mosaïque, si tu veux, prends-la ». Et donc il y avait, je crois, 30 tonnes ou un truc comme ça. Et c'est ce qu'on a fait, hein. On a tout débarrassé, on a amené ça sur mon terrain. Alors j'ai commencé à la vendre sur les braderies, voilà, à droite, à gauche, on posait ça par terre en vrac et puis on vendait ça comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'aller vivre avec Marie. Là, il a fallu que je remette tout le circuit administratif en place, c'est-à-dire pièce d'identité, qui n'était pas simple parce que au bout de 13 ans, on m'a même demandé si j'étais vivant. Et une fois que ça s'est fait, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut que je travaille, quoi. Donc, on a décidé d'ouvrir un magasin dans Rennes pour vendre la matière de mosaïque. Au bout de 6 mois, même pas un an, au bout de 6 mois, il y a un patron de bar qui est venu me voir et qui m'a dit « Ouais, tu veux pas faire mes toilettes en mosaïque ?» Bon, j'avais jamais collé un morceau. Je me suis dit « Ah ouais, ouais, pas de problème, hein, j'arrive. » Et tout en autodidacte, bah, j'ai commencé à passer d'un bar à un autre, faire des créations. Et puis au bout d'un an, j'ai dit à Marie, j'ai dit « Bon, allez, ça marche bien, mosaïque, je vais garder ça comme boulot. Mais par contre, la ville, moi, je peux plus, quoi. » Donc, je suis resté un an, j'ai fait les 4 saisons. J'ai vu les agressions, j'ai vu les choses qui me replongeaient dans mes vieilles histoires, qui me réveillaient mes vieux démons un peu, là. Donc, j'ai proposé à Marie de vivre sous un tipi de 10 mètres de diamètre avec ses 2 enfants ados qui sont très, très citadins. Elle m'a dit « Non, ça va pas le faire. Donc on va louer une maison à la campagne et puis tu vas planter ton tipi. Puis si tu as envie de vivre dans ton tipi, tu vis dans ton tipi. Si tu as envie de venir à la maison, tu viens à la maison. » Et donc j'ai fini par me spécialiser dans la restauration de mosaïques anciennes. Je me dis « Waouh, génial, génial. » Là, je suis en train de me trouver vraiment, quoi. C'est, voilà. Bon, je savais pas ce que je voulais à la fin de mon voyage, mais je sais à quoi m'a servi cette raison de vie dans la nature. C'était où le voyage m'a apaisé, en fait. Parce que moi, j'ai vécu l'ultra-violence, mais je l'ai donné aussi, l'ultra-violence. J'ai vécu que ça, moi, toute ma vie. Il y a forcément des difficultés. Il y a eu des accrochages, des fois, limite à la séparation. Mais c'est des tensions qu'on a pris soin de gérer correctement. Voilà, si on veut vivre à deux, je pense qu'il faut savoir faire des concessions. Tous les deux, il a fallu qu'on en fasse, parce qu'encore une fois, voilà, on vient de deux mondes complètement différents. Donc là, c'est « Ok, ça va pas ». On s'arrête là, et tant qu'il y en a un des deux qui est encore énervé, ben, on discute pas, on attend que les deux se calment, et après on revient là-dessus, et on refait le point sur ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, et ce que ça mérite d'en arriver là surtout, est-ce que c'est, voilà. Même s'il y a eu une erreur qui a été faite de l'un ou de l'autre, il faut savoir passer les choses. Et il y en a quelques exemples, hein. Il y a eu des histoires de jalousie, il y a eu des histoires d'appartement, en ce qui me concerne, parce que voilà, vivre dans un appartement, ça avait tendance à me rendre un peu nerveux, donc des fois j'étais un peu plus sensible que d'autres.
Dawa explique clairement que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il y a des disputes, des tensions, des perturbations très fortes, mais que le couple est passé à travers toutes ces épreuves-là. Je me suis inspiré des modèles d'écologie. Les modèles d'écologie sont faits de la façon suivante. Il y a une sorte de seuil en dessous duquel la population va aller en voie d'extinction. Une zone de confort qui est au-dessus de ce seuil, une zone à risque au-dessous de ce seuil. Et donc, j'ai commencé à étudier ces équations-là et je me suis dit quels sont les paramètres pour les relations amoureuses que l'on pourrait utiliser pour regarder vers où on va, est-ce qu'on va continuer de monter, descendre, et comment cette barre de seuil augmente ou descend. Autrement dit, Dawa, encore une fois, de façon intuitive, instinctive, il a vu à peu près où se situait la barre de seuil au-dessus de laquelle on était dans le confort, au-dessous de laquelle on était vraiment dans une zone à risque, et il a essayé de la mettre la plus basse possible. La courbe des sentiments qui est au-dessus de cette barre de seuil chute à un moment donné, parce que le sentiment baisse quand on se dispute. On en veut toujours à l'autre, nécessairement. Et ce qui est encore plus perfide, c'est que la barre de seuil monte, puisque c'est une sorte de barre de confiance qui dit ben, on perd un peu la confiance en l'autre. Et le but, c'est de pas les faire se croiser. C'est la courbe qui descend et la barre de seuil qui monte. Il a fait très attention à ne jamais la croiser et il dit d'ailleurs, à un moment donné, on était vraiment très proche de la rupture. Il avait vraiment identifié ça. Et ce qu'il a sauvé, c'est de garder cette barre de seuil. Comment est-ce qu'on garde cette barre de seuil le plus bas possible? Grâce à l'écoute, grâce à la communication. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'il a énuméré quelques exemples de disputes, ce qu'on appellerait des perturbations. Et c'est à peu près, statistiquement, suivant l'INSEE, ce qui revient le plus souvent. C'est-à-dire la jalousie, l'appartement, c'est-à-dire le lieu où on vit, hein, en gros. Est-ce que tu laisses traîner les affaires? Est-ce que tu m'aides pas à ranger? Ou des choses comme ça. Les enfants, qui peuvent être un sujet de dispute. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Et donc, tout ça mélangé fait qu'on n'est jamais à l'abri de toutes ces perturbations. C'est exactement ce qui se passe quand je prends l'exemple des trois petits cochons et qu'on dit la relation que je vais construire est soit en paille, soit en bois, soit en brique. Eh bien, si on n'est pas préparé dans cette relation et que notre barre de seuil est assez haute, justement, ce qui va se passer, c'est que notre relation est en paille. Par contre, si on a la relation, on va dire en bois, comme la maison en bois d'un des trois petits cochons, on voit qu'il faut vraiment des disputes assez fortes, comme le loup qui souffle, hein. En gros, il faut qu'il souffle un peu plus fort, il y a un plus gros effort à fournir, pour que la relation s'écroule. Donc là, il faut des disputes beaucoup plus fortes. Et lui, il le dit, hein, on a eu des disputes très fortes. Eh bien, sa maison a résisté. Donc lui, il est vraiment dans le cas, dans mon modèle mathématique, de la maison en briques. Leur niveau de sentiment est très haut, leur barre de seuil est très basse. Ils peuvent appréhender les grosses disputes sans aucun problème.
Il y a des tensions aussi où moi, je lui ai quand même fait subir des choses qui sont... allez, on change de vie, on passe à autre chose, qui pour moi était très enrichissant, mais bon, qui n'était pas dans la mentalité à Marie au départ, et qui s'y est fait, et puis qui a trouvé aussi son intérêt. C'est l'époque où je travaillais énormément avec la mosaïque, mais vraiment énormément. Ok, j'ai gagné beaucoup d'argent, et ça a été mon problème dans ma tête, en fait. C'est-à-dire, mais j'ai voyagé pendant des années sans argent, parce que je refusais l'argent, et aujourd'hui, je me tue au travail pour gagner plein d'argent, quoi. Donc, j'ai dit à Marie, j'ai dit, écoute, j'arrête tout. J'ai dit, j'arrête tout, parce que là, je suis en train de me perdre, là. Je suis en train de me perdre pour de l'argent, et j'ai toujours rêvé d'avoir un cirque. Et j'ai dit, bah écoute, on a qu'à acheter un cirque, et puis partir en tournée. Mais du coup, elle est partie plein pot dans l'idée, quoi. Et Marie a dit, oh, bon, moi, je suis fonctionnaire, donc je peux prendre un an d'arrêt de travail, quoi, et puis de reprendre après, voir si ça marche pas. On avait un show d'une heure et demie, on s'est dit, bah, allez, on part en tournée. On a commencé à... Alors, on avait une vingtaine de dates en France. C'était l'année où il y avait la Coupe du Monde de football, où ça... les Français ont cartonné, hein, bien sûr, comme par hasard. Et nous, on avait mis toutes les dates à 8 heures. Il y a un village où on a monté le chapiteau. Et là, on a une femme avec sa fille, là, qui avait 9 ans, 10 ans, peut-être. Et on s'est dit, bah, il y a quelqu'un. Et ben, on fait le spectacle. Et c'est le seul spectacle qu'on a fait, quoi. Et ils avaient une invitation de la mairie. Donc j'étais un petit peu énervé quand même, mais je me suis défoulé en creusant une piscine dans ma maison, à la pioche. Et ça m'a fait du bien, et j'ai creusé ma piscine, que j'ai recouverte entièrement de mosaïque, et puis qui nous a servi pour se baigner après, quoi. Il n'y a pas eu de tension parce qu'on a confiance l'un dans l'autre, et du coup on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si l'histoire devient très moche, on l'arrêtera avant que ça aille trop loin, et tant pis pour les rêves et tant pis pour tout ça. Dans toutes les décisions qu'on prend, on va s'arrêter au moment où il y a la limite qui dit là, si tu vas trop loin, ça peut être grave. Donc, et ça, on ne veut pas y arriver là. Après, bon, moi, je n'ai pas pu tout faire, mes volontés aussi, parce que voilà, après, je ne suis plus tout seul, donc j'ai plein d'idées, moi. J'aimerais avoir un hélicoptère dans ma cour, par exemple. Ça, c'est pas possible. Voilà. Il y a plein de choses comme ça où il faut que je fasse. Alors, c'est pas des concessions, hein. C'est juste un accord entre nous. Concession, c'est pas un mot que j'aime employer, en fait, parce que on se force pas à faire les choses. Voilà.
Dawa a compris qu'il fallait identifier la barre de seuil et il a complètement identifié avec Marie. Il n'attendra pas que la relation s'éteigne ou se délite, se pourrisse, mais il arrêtera vraiment avant. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé encore, c'est l'usure. J'ai abordé l'attractivité, la réaction, qui sont les deux autres paramètres. Eh bien, on peut dire que chez Dawa et Marie, il n'y a pas d'usure du couple, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habituation. Ils ont une vie très riche. En surprise, ils n'ont même pas le temps de s'ennuyer. Et ça, c'est un autre point qui consolide énormément le couple, c'est-à-dire on ne tombe pas dans la routine. Et le fait d'avoir le terme d'usure le plus bas possible, ça ne fait pas descendre du tout la relation amoureuse vers la barre de seuil. La vie de Dawa et Marie est juste un exemple parfait, presque, je dirais, académique de mes travaux, dans le sens, voilà, Si vous voulez tous les paramètres optimaux, c'est exactement ça. Identifiez votre barre de seuil. Identifiez vos trois paramètres, c'est-à-dire votre attractivité, être vrai et pas baser tout sur le physique. La réaction et le terme d'usure, ben, on ne va pas s'ennuyer dans la vie parce qu'on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer dans la vie. Et on va avoir un maximum de surprises et éviter la routine.
Alors le bateau, c'était respecter mes engagements avec moi-même. C'est-à-dire que quand je voyageais avec les chevaux, je marchais, j'ai beaucoup utilisé les chemins de halage et j'ai vu pas mal de saloperies sur l'eau et je m'étais dit un jour, je ferai quelque chose pour les canaux. Du coup, j'ai commencé à chercher un bateau. Ça nous a pris 5 ans et demi, mais aujourd'hui, voilà, le bateau, il ramasse les poubelles qui traînent. Et moi, j'ai dit, putain, c'est pas mal comme vie quand même. Hein. Je dis, plus de stress, plus rien. J'ai dit, écoute, qu'à vendre la maison et puis on va vivre sur le bateau. Bon, voilà, encore une nouvelle idée qui est arrivée dans la tête à Marie. Encore des inquiétudes, bien sûr. Hein. Et puis aussi bien pour elle que pour moi. Hein. Même si moi, j'ai du genre à foncer tête baissée, ça reste là un changement de vie qui est quand même bien, bien différent, quoi. On en est là aujourd'hui, c'est là, dans quelques jours, on rachète un bateau de 20 mètres pour habiter dessus. L'heure de vérité va être à ce moment-là. On verra si dans un an, on est toujours sur le bateau, si on n'est pas passé à autre chose. Peut-être qu'on sera sur Mars. On ne sait pas. Moi, j'ai le petit côté fougueux, là, qui a peur de rien et puis qui fonce. Elle a le petit côté... attends, on va caler les trucs quand même. Mais en fait, là où elle est surprenante, c'est que on n'étudie pas 107 ans, quoi. Si elle a compris que c'est jouable, elle va être aussi surprenante que moi parce qu'elle va dire, OK, on y va, on fonce, quoi. Déjà, nous, on a un principe aussi. Déjà, on parle de surprise, c'est-à-dire que tous les ans, on fête notre anniversaire de mariage et chacun notre tour, on doit ce jour-là surprendre l'autre. Une année, j'ai fait venir un hélicoptère dans la cour pour ses 50 ans. Une année à Cancale, je l'ai envoyé se faire habiller dans les années 30 chez une copine, sans qu'elle sache pourquoi. Et quand elle est arrivée, moi, j'avais une queue de pie avec un chapeau de forme. Et dans la galerie où on exposait, on avait tout transformé avec des grands chandeliers et tout ça. Et repas d'anniversaire de mariage en plein centre-ville de Cancale, habillé en haute forme, et bien voilà. Et puis que ça nous fasse marrer, surtout, quoi. Alors, je ressemble à quoi aujourd'hui? Alors, si j'écoute ce que j'entends sur moi, souvent les gens me prennent pour un sikh, hein, parce que j'ai un turban, j'ai une barbe de 30 cm, j'ai une dread qui est repliée 3 fois, qui fait presque 2 mètres de long. Donc, rien à voir avec la religion, ni l'Inde d'ailleurs. Hein, c'est un look qui s'est fait au fur et à mesure des années de ma vie. Et puis, c'est mon image, c'est mon identité. C'est mon voyage et je ne m'aime pas comme j'étais avant. Du coup, il a fallu que je crée moi-même mon propre personnage avec mon propre nom. C'est-à-dire que Dawa, c'est pas mon vrai nom. Bien sûr, je le dirai pas parce que j'ai oublié. Pour moi, j'étais parti pour avoir une vie de galère et ça a été comme ça dès la naissance. Hein. Donc, pour moi, j'avais pas connu le bonheur, j'avais rien connu de tout ça. Donc, du coup, pour moi, c'est quoi le bonheur déjà? C'est quoi le bonheur? Et même en arrêtant le voyage, je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je fais? Je m'attendais pas du tout à autant de bonheur. Hein. Non, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, je le mange pleinement. Ouais. Et je laisse pas passer une miette. Hein.
C'est exactement le but de mes modèles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester passif ou en attente dans un couple, rien prendre pour acquis, avoir cette sorte de reconquête. Alors, je pense qu'à ce point-là du récit de Dawa et de Marie, on peut clairement identifier la différence entre ce que sont les statistiques et ce que sont les équations sur lesquelles je travaille, qui sont différentes. Les statistiques permettent de décrire un phénomène et de dire statistiquement on est dans un groupe à 60% ou 40% dans un autre groupe. Mes équations vont dire vers quoi on tend. C'est-à-dire que ça va pas être descriptif mais prédictif, dans le sens où on va dire si on change tel paramètre, on sait dans quelle direction on va. Statistiquement, Dawa était théoriquement dans un schéma vraiment pas bon pour lui. Il a dit je laisse tomber les statistiques. Parce que si on avait vraiment considéré les statistiques, et si Dawa avait vraiment considéré ces statistiques-là, je pense que avec son passé très lourd, il n'avait aucune chance de créer une relation comme il l'a en ce moment. C'est-à-dire que s'il s'était dit, je fais partie de telle statistique, je ne vais même pas lutter dans quoi que ce soit, il aurait laissé tomber très vite. Le message qu'on peut retenir ici, c'est ne faites pas confiance à ces statistiques-là. Prenez plutôt des équations avec des modèles et des paramètres. identifiez vos paramètres, relevez-les. Et le message de Dawa est extrêmement optimiste en ce sens-là, c'est-à-dire que on ne veut pas être résigné par des statistiques. Beaucoup de collègues, hein, même dans la communauté mathématique, on pense que travailler dans les relations amoureuses ou faire des modèles mathématiques de relations amoureuses n'est pas sérieux. Et ce qui est important de souligner, c'est que si, c'est sérieux, parce que les outils mathématiques qu'on utilise dans la description des relations amoureuses sont des outils éprouvés en médecine, en météorologie, dans des domaines hyper complexes, hyper sophistiqués et hyper sérieux. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne prenne pas les relations amoureuses comme quelque chose de sérieux.
Peut-être que j'étais prêt à arrêter de marcher et puis de recommencer une vie normale. Donc hasard, pas hasard, je pense que c'est le destin, c'est comme ça. On devait se rencontrer, on s'est rencontrés. Peut-être que si j'étais encore dans mes montagnes, je ne l'aurais jamais croisé. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, mais ouais, je pense que j'étais prêt à rencontrer quelqu'un. Et souvent, les gens nous disent « Ah, mais vous êtes frères et sœurs tous les deux ». Et c'est assez rigolo parce que du coup, le fait de la rencontre, toutes ces choses-là mélangées font qu'on devait se rencontrer, je pense, quoi. Tout de suite, pour moi, c'était le fait qu'on nous prenne pour frères et sœurs, c'est qu'on devait être ensemble, quoi, quelle que soit la raison. Mais c'était une raison de plus pour qu'on soit ensemble, quoi. C'est ça, du même bois.
Cet épisode de La maladie d'amour a été tourné et monté par Antonella Franchini. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.